et c'est la fin qui s'approche. C'est de tester, ce n'est pas ce que nous ont enseigné les apôtres. A tous mes amis, tous ceux qui sont loin de moi, à toutes les familles, et à leurs fils.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlons de diabète et nutrition. Quel lien faire entre ces deux notions? Notre santé se trouve dans l'assiette, quand même à le dire, les spécialistes de santé. Nous essaierons avec notre invité du jour, qui est nutritionniste, de creuser pour mieux nous faire une idée sur la question et justement préserver notre santé. Mais avant, nous partirons sur quelques généralités sur le diabète qui, dans le monde entier, atteint un adulte sur 10, soit une population estimée à 537 millions de personnes. Comment prévenir cette maladie? Comment vivre avec? Nous nous tournons vers vous, Adjassi Bazia Hortense. Oui, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, vous êtes, on va mieux préciser, vous êtes diététicienne, nutritionniste, vous avez même dit diététiste.
Alors, j'explique. Allez-y. Je suis nutritionniste diététicienne.
D'accord.
On entend aussi dire diététiste. Voilà, ce sont deux langages qui s'expliquent couramment.
D'accord.
Alors, un nutritionniste, c'est une personne qui fait la science de la nutrition, de l'alimentation et tout. Et le diététiste ou diététicien ou diététicienne, c'est la personne qui va utiliser ces aliments-là pour les conseiller ou les octroyer à une personne qui présente une pathologie, c'est-à-dire une maladie, ou une personne saine qui voudrait présenter préserver plutôt son état de santé,
tout en simplement. Ayant une hygiène alimentaire.
En ayant une hygiène alimentaire, assez saine, voilà, assez saine, équilibrée, voilà.
D'accord. Alors, justement, nous parlons de diabète aujourd'hui. Pour vous, justement, c'est sûr que vous suivez des personnes atteintes de cette maladie.
Oui.
Alors, en deux mots, c'est quoi le diabète?
Alors,
en termes simples,
le diabète, c'est lorsque le sucre dans le sang, on observe, il y a des valeurs quand même, avec la glycémie, de 0,70 grammes par litre de sang jusqu'à 1,10 grammes par litre de sang qu'on peut observer de sucre dans le sang humain, dans le corps humain. Et cette quantité de sucre-là ne doit pas perdurer sur le temps. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui je prends la glycémie, qu'elle est élevée, on me dit attention, c'est possible que vous fassiez une hyperglycémie.
Quand vous dites élevée, à combien?
C'est-à-dire au-delà de 1,10.
D'accord.
Voilà, au-delà de 1,10. On va vous dire attention, vous faites une hyperglycémie, mais directement pas de diabète. On ne dit pas de diabète directement. Mais quand on observe cette fréquence-là et que ça perdure sur un bon bout de temps, on vous demande, on vous dit là que c'est possible que vous développiez un diabète.
Sur une année, sur combien de temps?
Déjà, il faut vérifier quotidiennement, c'est-à-dire que vous avez un glucomètre qui vous permet de vérifier cette glycémie là quotidiennement, tous les matins. Et si vous remarquez que à jeun, mais aussi il y a des valeurs après le repas qu'on appelle post-bandial. Mais idéalement à jeun, on arrive à bien déterminer ce cas-là.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui provoque le diabète? Quelles sont les causes de cette maladie?
Alors, de façon générale, on peut observer le stress. D'accord. Il y a des facteurs
de risque.
Voilà, il y a des facteurs de risque quand même. Comme dans toute autre maladie, il y a des facteurs de risque qu'on peut modifier.
D'accord.
Et puis il y a des facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier. Par exemple, ce qu'on ne peut pas modifier, c'est vraiment héréditaire. D'accord. Donc on peut développer un diabète de type 1 à l'adolescence déjà, voilà, c'est possible de développer ce diabète-là. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas modifier, en fait, ce côté-là. Je veux dire, c'est génétique, c'est quelque chose qui s'est développé, ce n'est pas dû à notre alimentation. Donc, quand je parle d'alimentation, ça rentre directement dans les facteurs qui sont modifiables. Donc, je peux modifier mon alimentation pour avoir une glycémie normale, pour quitter, par exemple, le diabète. Quand c'est très tôt détecté.
Quand vous dites quitter, guérir.
Guérir, c'est possible. Mmh. Quand c'est très tôt détecté. D'accord. Mais quand on observe déjà les complications, on vit avec. Voilà, on vit avec, mais on garde toujours une bonne hygiène de vie. Voilà.
Des complications qui peuvent être.
Des complications qui peuvent, on va dire, atteindre les nerfs, les artères, et ça, c'est vraiment un volet purement médical.
Évidemment.
Je pense que vous aurez un médecin pour mieux vous orienter, vous répondre sur ce sujet.
Malheureusement, on n'a pas pu être disponible aujourd'hui.
C'est ça. Mmh.
Alors, on va mettre l'accent sur le lien entre diabète et nutrition. Mmh. Alors, dans le traitement, est-ce qu'on peut dire que dans la chaîne de soins, quel est le rôle de la nutritionniste que vous êtes? Quel moment vous intervenez?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le rôle de la nutritionniste, je le dis et j'assume, c'est impératif. C'est-à-dire, quand on découvre que vous avez une hyperglycémie, directement, c'est corriger votre alimentation. Parce que c'est l'alimentation qui est à la base de cette élévation
de
la glycémie.
Donc, il n'y a pas de traitement médicamenteux ?
Bien sûr qu'il y a, des traitements médicamenteux.
D'accord.
Mais dans l'immédiat, on se dit on peut ne pas vraiment passer par le volet médical et faire le traitement alimentaire. Je prends un exemple simple.
Allez-y.
Pour quelqu'un qui mange, qui prend par exemple un grand verre de jus de fruits la veille ou un soda ou qui a eu une forte consommation d'alcool, c'est possible que le lendemain matin, en vérifiant sa glycémie, comme je dis, ce n'est pas directement le diabète, mais en vérifiant sa glycémie, on observe une élévation de la glycémie. Là, on dit à cette personne, il faut faire attention. Qu'est-ce que vous avez mangé la veille qui a pu provoquer cette élévation de la glycémie? Vous voyez que l'alimentation vient en première position. Voilà. Et quand on observe sur le long terme que ça persiste, on se dit, il y a longtemps que cette personne développe la maladie. Donc, on peut vous donner l'occasion de corriger votre alimentation pendant un certain temps, voir si ça peut diminuer ou pas. Comme on vous met sur les deux volets, on vous donne des médicaments ou on vous met sous insuline, voilà, l'insuline ou les comprimés ou tout autre traitement, mais c'est impératif d'avoir un planning alimentaire parce que c'est la première cause générale de diabète de type 2. Voilà, le diabète de type 2, c'est le diabète sucré que nous connaissons, qui touche généralement les adultes. Et les diabètes de type 1, ce sont les enfants, on va dire les adolescents, ça se présente à l'adolescence. Voilà.
D'accord. Alors, comment est-ce que, en tant que nutritionniste, vous pouvez aider, par exemple, une personne qui a été déclarée diabétique?
Alors, en tant que nutritionniste...
De façon concrète,
déjà, il y a un travail qui se fait. Il faut que la personne vienne en consultation. Donc, c'est un échange du patient et de la nutritionniste, du professionnel de la nutrition. Le professionnel de la nutrition va poser des questions sur l'hygiène alimentaire de cette personne, le mode de vie de façon générale, parce qu'en parlant de mode de vie et tout, on va parler d'activité physique et tout ça, on va chercher la cause, en fait, de cette survenue de diabète ou d'hyperglycémie. Parce que pour une personne lambda, la cause on va dire l'aliment qui est à la base de cette élévation de la glycémie n'est pas forcément le même chez une autre personne. Donc si je ne vous interroge pas, si je n'ai pas de conversation avec vous pour savoir exactement ce que vous avez l'habitude de manger, je ne peux pas déceler le problème.
Alors si vous le permettez, qu'est-ce qui fait qu'on peut, qu'est-ce qu'on mange qui pourrait nous faire développer un diabète?
Déjà, de façon générale, on sait que le sucre, c'est l'ennemi premier de tout ce qui est du diabète. Donc, tous les aliments sucrés, de façon générale, quand vous goûtez au goût, vous avez du goût sucré, il faut faire attention. Même si on entend pas ci et là que l'index glycémique est bas et ci et ça, il faut faire attention quand c'est sucré. Ce n'est pas parce que l'index glycémique est bas que je me permets de manger n'importe comment, à n'importe quelle heure et à n'importe quelle quantité. si je peux le dire ainsi.
C'est voilà. Bien compris.
Donc, c'est vraiment important de faire la part des choses. Et quand vous voyez votre nutritionniste ou votre diététicienne ou diététiste, la personne, le professionnel de la nutrition, vous oriente en fonction de vos habitudes et on arrive quand même à donner des proportions et tout ça. Voilà. Parce que chez certaines personnes qui développent un diabète, on peut avoir une obésité. Chez une personne qui développe un diabète, il peut avoir une hypertension, il peut avoir un problème de santé, voilà, autre que le diabète. Donc c'est un ensemble de tout qu'on essaie d'évaluer et puis on vous donne un planning alimentaire que vous suivez sur un bon bout de temps jusqu'à ce qu'on atteigne les objectifs.
Alors justement, parlant de planning alimentaire, est-ce que c'est adapté au goût et à la réalité, pardon, des personnes que vous recevez?
Oui. Oui, parce que ce qu'on fait généralement, disons ce que moi je fais,
d'accord,
comme je dis, on interroge le patient, on interroge la personne qui souffre d'hyperglycémie ou de diabète pour chercher à savoir d'abord le problème, mais en même temps, on a les habitudes alimentaires de cette personne. Et à partir de ces habitudes alimentaires, on arrive à définir ce qu'il aime bien manger, ce qu'il n'aime pas. Et tout. Et dans ce qu'il aime bien manger, on essaie de trouver l'équilibre parce que manger, ça doit rester un plaisir. Si une personne se retrouve à manger quelque chose avec beaucoup de difficultés, c'est pas évident qu'on puisse atteindre l'objectif. Voilà, c'est possible que la personne abandonne en chemin pour dire c'est bon, je ne vais plus faire de. C'est trop contraignant, je ne fais plus le régime, je préfère prendre les médicaments uniquement. Alors que les médicaments uniquement ne peuvent pas forcément suffire. Il faut aussi une hygiène alimentaire.
D'accord. Alors, ça veut dire que la vie au quotidien du diabétique est modifiée, surtout sur le volet alimentaire.
Oui, naturellement. Mais modifiée, pas totalement. On trouve le juste milieu. Voilà. On essaie de vous arranger pour que vous trouviez plaisir, mais en préservant votre état de santé. Voilà. Il y a des personnes qui vont développer un diabète et refuser carrément de prendre les médicaments, refuser carrément de prendre l'insuline et de se mettre uniquement au traitement alimentaire, à un suivi alimentaire. C'est possible que ça fonctionne, voilà. Mais il faut savoir que c'est un peu de ci, un peu de ça qui permet d'atteindre un peu plus vite les objectifs et mieux.
D'accord. Alors, vous avez parlé de sucre. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que on doit forcément bannir le sucre sous forme de boissons sucrées, de friandises et autres de notre alimentation?
Pas forcément bannir, parce que quand on dit sucre, généralement, on fait référence à tout ce qui est sucré par le goût, par les papilles et tout ça. Mais en réalité, sucre chez le diabétique, on va parler du glucide, en fait. Donc, il y a du sucre ou le glucide qui est... Il y a des glucides qui sont lents, il y a des glucides qui sont rapides. Voilà. Donc, ceux qui sont rapides, qu'on retrouve généralement dans les boissons sucrées, c'est-à-dire, on parle de rapide dans le thème où il va très vite dans le sang et pourrait, voilà, provoquer une hyperglycémie ou le diabète. Ou augmenter, voilà, votre sucre dans le sang si vous êtes déjà diabétique. Et tout. Donc il y a le sucre qui est rapide et il y a le sucre qui est lent. Ce qu'on recommande beaucoup plus, c'est le sucre qui est lent. Et le sucre qui est lent, on peut retrouver dans nos tubercules ici, pour parler vraiment africain, pour parler ivoirien. On peut retrouver par exemple dans la tchéké, on peut retrouver ici la banane qui est verte, pas mûre, parce que plus l'aliment est mûr, plus c'est sucré. Et il y a le sucre qui augmente. Voilà. Donc on va prendre par exemple le taro, on va prendre même le riz. C'est vrai qu'il y a une grande polémique par rapport à l'index glycémique de riz, mais tout est une question de quantité. Même là, dans ce groupe d'aliments où on a le sucre qui est lent, d'accord, il faut quand même faire attention à la quantité. Parce que quelque chose, c'est vraiment lent pour aller dans le sang, mais si je prends en trop grande quantité, ça va se retrouver forcément dans le sang après. Donc même là, il faut avoir des quantités requises pour garder une bonne hygiène alimentaire. Et pour ceux qui sont rapides, naturellement, c'est de les éliminer pendant un bon bout de temps, le temps que la glycémie se stabilise un peu. Et de temps en temps, on peut intégrer ça. Ce sont des méthodes.
Des petits plaisirs.
Voilà, des petits plaisirs, des méthodes que nous mettons en place pour que les personnes s'y retrouve. Voilà. De temps en temps, vous pouvez vous permettre de prendre un fruit, de prendre ceci, de prendre un petit jus, mais il y a toujours aussi des quantités, voilà, avec une fréquence bien définie. Parce que si je vous dis, là, on a la glycémie qui est devenue normale, vous pouvez manger ce que vous aimez et que vous commencez à manger tous les jours, la semaine prochaine, la semaine suivante, vous vous retrouvez dans le cas de, dès le départ, vous revenez en fait dans cette maladie. Mm-hmm. Voilà.
D'accord.
À la case départ.
D'accord. Vous avez parlé, vous avez évoqué le fruit. Mm-hmm. Alors, le fruit est à classer dans les sucres lents ou rapides?
Le fruit est à classer dans les sucres rapides. Voilà. Donc, même quand on peut le prendre, mais vous voyez que si je prends un fruit, ça va. Je prends deux fruits, ça va. Mais si je vais jusqu'à 3-4, et il y a aussi la quantité ou la forme du fruit. Si c'est un fruit qui est vraiment énorme, on va prendre le cas par exemple de l'ananas. Si je vous dis manger deux fruits et que vous considérez l'ananas entière comme un fruit, et c'est ce qui est normal, que vous prenez deux ananas, on n'est plus dans le même... voilà. Donc même là, il y a des quantités. Voilà, il y a des proportions qu'il faut avoir.
Donc ça veut dire que le diabétique peut consommer des fruits.
Il peut consommer des fruits
avec des quantités modérées.
Voilà. Mais pas de jus de fruits. Parce que quand je prends un jus de fruits, c'est carrément différent du fruit. Pourquoi ? On dit aux personnes de ne pas prendre de jus de fruits parce que pour avoir un verre, par exemple, de jus de fruits, vous devriez presser un gros fruit en entier ou voire 4-5 fruits. Je prends le cas peut-être d'une orange. Pour avoir un verre d'environ 250 ml, il vous faut presser 3 fruits, 4 fruits. Et on se retrouve à prendre un verre de jus de fruits et on se dit « j'ai rien pris » en général. On n'a pas forcément la sensation de plaisir ou de satiété et tout. Donc on est emmené à en prendre encore, vous voyez. Mais par contre, quand je mange un fruit, je me dis « j'ai mangé le fruit qui est vraiment différent du jus de fruit ». D'ailleurs, ce n'est même pas le même groupe d'aliments. Le jus de fruits fait partie des boissons. Les fruits, c'est les fruits et légumes. Donc, c'est vraiment différent. Ce qui est vraiment, vraiment conseillé pour toute personne qui fait vraiment le diabète et tout, c'est de prendre des aliments qui contiennent du sucre qui est lent dans les féculents, les céréales et tout ça. Et de manger beaucoup plus de légumes. Voilà. Bien évidemment, il faut aussi limiter les fritures parce qu'on sait tous que quand l'huile rentre dans l'organisme, ça va produire du sucre. Quand le sucre rentre, c'est le sucre. Et il y a beaucoup vraiment, c'est tout un métabolisme qui se met en place. Donc, il y a des limites quand même dans la consommation de ces groupes d'aliments-là.
Est-ce que, par exemple, bannir carrément le sucre de son alimentation, on va dire sous forme d'aliments sucrés, je veux dire boissons, friandises et mm-hmm. autres, est-ce que c'est conseillé?
Oui, c'est conseillé. Parce que
même quand on n'est pas diabétique.
Ah non, là on est en train de parler du diabète, donc c'est pourquoi j'ai répondu comme ça. Même quand on n'est pas diabétique, bon, pour la prévention... Si on sait que dans la famille, il y a des antécédents...
Parce qu'il y a des personnes, justement, qui mm-hmm. ne sont pas diabétiques et qui ont peur d'être diabétiques, qui décident, par exemple, de ne pas se laisser aller mm-hmm. au sucre, qui bannissent carrément le sucre sous ces formes, on va dire, de sucre rapide mm-hmm. de leur alimentation.
Même avec les fruits aussi. Même en prenant les fruits, je demande... Est-ce que c'est avec les fruits?
Parce
que
si c'est avec les boissons fruits, sucrées, les mm-hmm. friandises, on va dire les viennoiseries et tout.
Oui, moi je trouve que ce sont de très bonnes initiatives parce que déjà à l'âge adulte, on présente des risques voilà, d'hypertension, de diabète. Voilà, on est prédisposé à ce genre de choses. Donc quand on atteint l'âge adulte, à partir de 30 ans, 35 ans déjà, on décide de bannir ces aliments trop sucrés qui apportent même du sucre qui n'est pas forcément du bon sucre. Ça peut être du sucre industriel, du sucre chimique et tout. C'est vraiment idéal pour la santé. Il n'y a pas de problème. Si vous faites une hypoglycémie, on peut vous donner rapidement un carreau de sucre, quelque chose pour vous réveiller. Mais je ne pense pas que ces personnes-là se retrouvent en hypoglycémie aussi facilement. En mangeant du riz, en mangeant le foutou, en mangeant le plakali, en mangeant le kabato et tout ça, on apporte du sucre, on apporte de l'énergie et le cerveau fonctionne très bien avec, va utiliser le glucose qui est présent. Pour le fonctionnement.
Le sucre se cache en fait sous diverses formes.
Oui, c'est ça. Exactement.
D'accord. Alors, on va parler un peu de la situation des enfants à qui on donne beaucoup de sucreries et tout. Est-ce qu'ils sont à risque aussi de développer la maladie ?
Alors, ce qu'on peut observer, les risques, c'est plutôt d'obésité.
D'accord.
Et s'il y a l'obésité, c'est un nid, d'accord, où la glycémie va s'installer et puis plusieurs autres maladies. Mais ce n'est pas immédiatement, c'est à long terme. D'accord. Alors, ces enfants à qui on donne beaucoup de jus de fruits et de bonbons et tout, naturellement, les enfants ont la capacité d'éliminer tout cet apport d'énergie en quantité, naturellement, parce qu'ils sont en âge de croissance et ils ont la capacité de bouger beaucoup plus. Les enfants bougent beaucoup. Mais là, l'environnement dans lequel nous vivons, les enfants sont confinés à la maison. Si ce n'est pas à la maison, c'est à l'école. À l'école, on prend la voiture à la maison. À peine les enfants ont le temps de courir, de sauter et tout ça, comme les arrière-grands-parents et les grands-parents le faisaient au village. Vous voyez que donc l'environnement n'est plus adapté. Donc à ce moment-là, c'est possible que ces enfants-là développent des risques d'obésité qui vont plus tard conduire au diabète. Et ça peut créer une addiction aussi. Parce que quand on aime le sucre, voilà, on devient vraiment accro. Et si vous donnez déjà très tôt des aliments sucrés, surtout du sucre qui n'est pas naturel, qui est chimique, que nous pouvons retrouver dans les friandises et tout ça, ça crée une addiction. Et les enfants en raffolent beaucoup. Voilà, si l'enfant a la capacité de bouger et qu'il est vraiment en âge de croissance, en dehors de manger les bonbons et tout, il a une alimentation qui est quand même équilibrée en apport de légumes, de viande, tels que le poulet et tout ça, de poisson, de riz. En dehors de ces friandises-là, l'enfant a un très bon apport de ce qui est essentiel pour sa santé. On arrive à compenser. Voilà, mais quand c'est que ça, ça pose problème. Il y a des enfants qui passent leur temps qu'à manger que des bonbons, que des biscuits. Ma fille, elle ne mange rien d'autre. Elle aime manger que les biscuits. Elle ne mange pas du tout. Ça, c'est un problème. À long terme, l'enfant peut développer une obésité ou voilà, un type de diabète.
D'accord. Alors, on va parler de... On va donner un exemple hein, de menu type. Mm-hmm. Concernant un diabétique. Mm-hmm. Voilà.
D'accord. Menu type concernant un diabétique. Déjà, les différents apports en calories et tout
de
ça.
De façon concrète, hein, parce que on se dit, bon, monsieur X, vous aimez bien manger de la tzatziki en grande quantité. Mm-hmm. Alors, à quel moment il doit manger son attiquet? À quel moment il doit manger le pain? Quelle quantité? Bon, enfin, c'est vous qui
Alors,
êtes la spécialiste.
Pour une personne ou un monsieur qui fait le diabète, donc qui vit avec le diabète, qui n'est pas sous comprimé, qui n'est pas sous insuline, parce que l'alimentation va dépendre aussi de ces deux facteurs, de ces apports-là, uniquement il veut être suivi uniquement par l'alimentation. On va proposer des petites portions quand même d'apport. Le matin, ça peut être du pain, mais pas le pain blanc. D'accord ? On va privilégier le pain complet parce que tout le monde mange du pain. Il y a des personnes qui ne le font pas, mais en grande majorité, il y a du pain. Ça peut être même une banane bouillie. D'accord ? Mais les quantités seront bien précises en fonction du gabarit de cette personne. Voilà. Et on va demander toujours des apports en légumes, des apports en protéines. Même le matin, il faut avoir de la protéine, il faut avoir des légumes pour avoir une assiette équilibrée.
Notamment, de façon concrète.
De façon concrète. Alors, on peut avoir un morceau de pain, on peut avoir un œuf dur ou un œuf au plat avec des légumes, haricots verts, tomates, oignons. Pour faire simple, vous n'êtes pas allé loin, tomates, oignons, ail, si vous avez du chou, il n'y a pas de problème. Vous le faites cuire comme ça à la casserole sans ajouter de l'huile. Et puis, vous ajoutez un œuf, soit l'œuf au plat, mais on ne fait pas les omelettes. Parce que quand on fait l'omelette, on est obligé d'ajouter beaucoup d'huile. Et c'est ce qu'on remarque. Voilà. Et quand vous finissez, vous avez une boisson chaude. La boisson chaude, vous la prenez sans sucre. Sans sucre et sans miel. Parce que même le miel, c'est du sucre. Il y a du goût, c'est sucré. Donc, on fait attention quand même. Même si c'est du bon sucre, comme on le dit, on fait attention. Voilà. Et quand vous finissez pour le midi, par exemple, si c'est quelqu'un qui aime manger attiéké, vous mangez de l'attiéké avec une soupe de poisson. Alors, la soupe doit être en très grande quantité. La soupe doit être dense Voilà. Parce que dans la soupe, là, ce qui a permis d'avoir cette soupe, ce sont des légumes. On a soit utilisé l'aubergine, la tomate, les oignons, l'ail, le persil pour avoir cette soupe. Donc, cette soupe, en général, c'est ce qu'on peut avoir comme légumes. Donc, vous avez des légumes et à l'intérieur, vous avez du poisson ou bien du poulet ou une viande blanche particulière. Et vous avez là votre repas.
Concernant
la tchéké, non, la soupe, c'est en très grande quantité.
Non, je parle du poisson, de
oui,
du poulet.
Oui, le poisson ou le poulet, on peut estimer en fonction du poids de la personne, parce que ce sont des calculs qui se font. Mmh. En fonction du poids de la personne, on peut aller jusqu'à 200 grammes environ de poisson ou de poulet. Voilà, c'est peu de temps. On prend la carpe, on peut prendre un tiers de la carpe ou bien la moitié d'une carpe et tout. Et concernant la tchéké, ce que je donne généralement comme recommandation, c'est que les gens ont du mal, on n'a pas cette habitude, ce n'est pas dans notre quotidien de mettre nos aliments sur une balance. Et même si on va au restaurant, ce n'est pas évident que la dame qui a servi la même sache que c'est 600, 400 grammes ou c'est 500 grammes. Mmh. Donc ce que je demande, c'est que vous savez, vous connaissez la quantité qui vous rassasie habituellement. Donc vous allez prendre un quart de cette quantité-là. Donc on réduit carrément cet apport.
Ça veut dire qu'on divise en,
voilà,
quatre portions.
En quatre portions.
D'accord.
Et vous avez cette portion-là que vous allez prendre. Et quand c'est comme ça, plus l'apport en calories et en énergie va chuter, mieux la glycémie va se porter.
Voilà. Alors, mais si on n'est pas rassasié, comment est-ce qu'on fait?
C'est la sauce qui doit vous rassasier. Mmh. D'accord? C'est la sauce qui doit vous rassasier. Ou vous pouvez encore ajouter une assiette de crudité, c'est-à-dire que vous mangez cette assiette de crudité avant de manger ce plat de résistance-là, pour avoir le rassasiement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'estomac se rétrécit, l'estomac grossit. Si vous habituez votre estomac à recevoir des grandes quantités, il va garder sa taille. Si vous commencez à réduire des quantités, réduire petit à petit, l'estomac va prendre forme jusqu'à s'adapter à cette quantité que vous apportez. Le jour où vous mangez un peu plus, vous sentirez que ça ne va pas. D'accord? Et puis le soir aussi, c'est toujours des petites portions comme ça pour le repas du soir. Alors, ce qu'il faut éviter surtout le soir, c'est de prendre des jus de fruits. Tout ce qui est sucré. C'est-à-dire, de façon générale, vous ne devez pas prendre. Mais le soir seulement, il faut faire l'effort de ne même pas toucher. Voilà, de ne même pas toucher. Et de réduire considérablement tout apport en glucides. Donc, même si c'est le riz, la tchéké et tout, que vous pouvez ne même pas prendre le soir, ce serait idéal pour vous. Voilà concrètement ce que je peux présenter comme tableau pour une personne qui voudrait faire un régime alimentaire ou un suivi alimentaire concernant le diabète.
D'accord. Vous avez dit qu'il faut supprimer le sucre, en tout cas dans le régime alimentaire du diabétique, supprimer le sucre des boissons chaudes. Vous avez parlé du miel, qui a du sucre aussi également. Mm-hmm. Alors, souvent, des produits sont vendus en pharmacie. Mm-hmm. On peut parler des édulcorants. Est-ce que tout ça, est-ce qu'il faut les prendre?
Oui, ces édulcorants, déjà, ce sont des produits qui sont vendus en pharmacie, donc on estime que c'est testé. Voilà, et qu'à long terme, ça n'a pas d'effet. Mais ce qu'il faut savoir.
En remplacement du sucre.
Voilà, en remplacement du sucre. En fait, ces sucres-là ont le goût sucré, donc il y a le pouvoir sucrant, mais ils n'ont pas d'effet sur la glycémie. Donc ça n'aura pas d'effet sur votre glycémie. Mais ce qu'il faut savoir, si cet édulcorant est purement naturel, tel que les plantes de stevia et tout, c'est purement naturel, ça, ce sont des plantes qui fournissent ça, il n'y a pas de problème. Mais si ce sont des édulcorants qui ont été fabriqués chimiquement et tout, il faut savoir que l'organisme ne reconnaît pas forcément tout ça. Donc, à long terme, vous prenez, mais à long terme, ça peut poser problème. Ce que je recommande souvent, c'est que quand vous faites quelque chose, faut pas le faire tous les jours, à condition que votre nutritionniste, votre médecin vous ait dit, faites ça pour atteindre tel objectif. Quand on atteint l'objectif, on arrête. Mais quotidiennement, comme ça, je veux remplacer le sucre, donc je prends les édulcorants chaque jour. Il y a les édulcorants dans ma nourriture, ça va poser problème à long terme. C'est pareil pour tous les aliments. D'ailleurs, j'aimerais signifier qu'il n'y a aucun aliment qui est mauvais. Il n'y a aucun aliment à lui seul qui est le super aliment bon. Tout est important. Mais la fréquence de consommation et les quantités que nous prenons généralement posent problème. C'est ce qui nous conduit vers ces maladies métaboliques-là.
D'accord, on va terminer notre émission avec des conseils pratiques justement dans le cadre de la prévention.
Alors, dans le cadre de la prévention, ce que je peux donner comme conseil de façon générale, c'est que pour une personne qui aimerait vivre longtemps et sainement, sans avoir à côtoyer le diabète ou l'hyperglycémie, c'est de faire attention au sucre. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'antécédents familiaux de diabète que je vais me permettre de manger du sucre n'importe comment. Cet antécédent peut commencer par vous. Donc, il faut manger moins sucré, comme on le dit. Quand on dit moins sucré, il faut quand même mesurer la quantité de sucre qu'on prend, ne pas prendre tous les jours les mêmes choses, ne pas prendre tous les jours le sucre, et puis faire une activité physique régulièrement. Parce que ce qu'on mange nous apporte de l'énergie. C'est en faisant l'activité physique que nous dépensons cette énergie, que nous brûlons ces calories. Et à travers l'activité physique, on peut aussi faire baisser notre glycémie. Voilà.
D'accord. Un dernier conseil, si on est addict, on est accro au sucre, comment est-ce qu'on peut s'en libérer?
Comment on peut s'en libérer? Je pense que les édulcorants sont faits pour ces personnes-là. Si vous pensez que vous pouvez retirer le sucre de votre alimentation de façon correcte et quotidiennement, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont vraiment addicts, accros et tout, les édulcorants et ces sucres naturels-là sont faits pour eux, pour les emmener toujours à garder ce bien-être en mangeant, à garder voilà, ce bon état de plaisir en mangeant. Donc ces personnes-là peuvent intégrer de temps en temps. On peut concevoir un repas sans qu'il y ait à ajouter du sucre. Si je mange par exemple un plat d'attiéké avec du poisson, il n'y a pas de raison d'ajouter du sucre. Voilà, le sucre ajouté, on ne peut pas le faire. Donc on peut avoir des repas où on n'aura pas besoin d'ajouter du sucre directement. Et si on se retrouve devant un plat qui nécessite vraiment d'ajouter du sucre pour ces personnes-là, on conseille les édulcorants.
D'accord. Et il faut également souligner qu'il y a des heures pour manger.
Oui, il y a des heures de repas naturellement, mais on essaie toujours d'adapter parce que tout le monde ne peut pas vraiment manger.
Est-ce qu'on peut manger son foutou, on va dire, la nuit?
Idéalement, c'est pas conseillé, mais ça peut arriver. D'accord? Si ça arrive, il y a des aptitudes qu'il faut développer dès le lendemain. Donc le lendemain, je vais éviter de manger trop gras comme si j'avais pas mangé aussi lourd la veille. Je vais éviter de manger trop sucré comme si j'avais pas mangé aussi lourd la veille. Et je vais faire une activité physique. Cette énergie que j'ai apportée doit être dépensée. Le problème, c'est ça. Il n'y a pas de dépense. Quand on a mangé la nuit, généralement, on va dormir. D'accord? On va dormir, il n'y a pas d'activité physique. Pour celui qui a mangé lourd, qui a mangé un foutou la nuit, et que après cela, il va danser ou il a un spectacle, qu'il est en activité, ce ne sera pas le même métabolisme que celui qui a fini de manger et qui est allé dormir. Vous voyez que ça dépend de l'environnement, ça dépend des conditions. Donc en fonction de la situation, en fonction de l'environnement, des conditions dans lesquelles vous êtes, on va définir s'il y a lieu de manger ou pas, ou c'est conseillé ou pas de le faire. Mais de façon générale, comme on sait que quand le soir ou dans la nuit, c'est pour aller dormir après, ce n'est pas conseillé.
D'accord, on va terminer cette émission avec une citation d'Hippocrate, qui est un médecin grec, mais également considéré traditionnellement comme le père de la médecine. « Que ton aliment soit ta médecine ». Alors, la santé dans l'assiette illustre parfaitement cette fameuse citation en montrant quelle est l'importance de l'alimentation dans notre santé. Pour rappel à mes auditeurs, un adulte sur 10 dans le monde vit avec le diabète et plus de 90% d'entre eux vivent avec le diabète de type 2. Et justement, pour parler aujourd'hui de diabète et nutrition, nous étions en compagnie de Adjassi Hortense. Encore merci d'être passé sur notre plateau. On rappelle que vous êtes nutritionniste
diététicienne, et j'interviens au centre médical Edlona depuis déjà 3 ans. En tant que spécialiste de la nutrition, j'accompagne, j'aide les patients à mieux manger, à manger sainement, à manger vrai, à manger équilibré pour préserver la santé, D'accord. qui est vraiment très, 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 très essentiel.
D'accord, je vous remercie Adjassi Hortense et encore merci d'avoir contribué à la sensibilisation.
Je vous en prie.
C'est toi la seule qui détient mon cœur, qui détient mon cœur, bébé, c'est toi la seule qui détient mon âme.
C'est toi la seule bébé qui a bloqué mon cœur
en otage,
qui a bloqué mon cœur bébé, c'est toi la seule. Dis qu'elle est, il est mon sauté, qu'elle est nié.
Si il est mon bébé, dis
qu'elle est mon papi, bébé.
Puis tous comme le miel, chérie coco caramel. Quand tu me touches, je suis comme dans un rêve. Ni pas du tout, c'est toi la plus douce.
Ah baby, merde.
J'ai pas de tout, c'est toi la plus douce.
C'est qui
de la paix. Il est 11h.